Des fleuves d'eau vive. En Jean 4, nous avons vu le Seigneur Jésus comme le Fils de Dieu, qui donne l'eau vive pour être en celui qui la reçoit une fontaine d'eau jaillissante en vie éternelle. C'est le Saint-Esprit, source de puissance, qui agit dans le croyant et le rend capable d'entretenir la communion avec le Père et avec le Fils, et d'adorer le Père, Jean 4, versets 23 et 24.
Mais l'heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi le Père en cherche de tels qu'il adore. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité.
Au chapitre 7, nous voyons de nouveau le Seigneur Jésus donner de l'eau vive, et il est expressément dit que c'est le Saint-Esprit. Mais la manière dont le Seigneur est présenté ici est tout autre, et ce qu'il dit l'est aussi. Dans l'Ancien Testament, il est parlé de trois grandes fêtes, Exode chapitre 23, Lévitique chapitre 23, Nombre chapitre 28 et 29, Deutéronome chapitre 16. La Pâque, la fête des semaines, Pentecôte, et la fête des tabernacles. En Jean 6, nous trouvons la Pâque, verset 4, et le Seigneur indique l'accomplissement de ce type. Il est descendu du ciel afin de mourir pour ceux qui ont mérité le jugement.
Jean 6, verset 4, « Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Jean 6, verset 54.
Nous ne trouvons pas ici la fête de la Pentecôte. Comme nous le savons, nous en avons l'accomplissement dans l'effusion du Saint-Esprit du chapitre 2 des Actes des Apôtres. Jean 7 passe directement à la fête des tabernacles. C'est un souvenir de l'habitation dans des huttes dans le désert. Cette fête devait être célébrée après que toute la moisson et la vendange avaient été rentrées.
Quand tu auras recueilli les produits de ton aire et de ta cuve, Deutéronome 16, verset 13.
Par les passages d'Ésaïe chapitre 63 et Apocalypse chapitre 14, nous savons que la vendange est une image du jugement qui fondra bientôt sur la terre. La fête des tabernacles, en revanche, représente en type l'avenir glorieux, lorsque Israël, après les jugements, habitera dans son pays, en repos et dans la paix. Alors le Seigneur Jésus régnera en gloire comme Messie à Jérusalem. Mais le temps était-il déjà venu pour le Seigneur de faire son entrée en gloire à Jérusalem? Matthieu 23, verset 39.
Je vous dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Les Juifs cherchaient à le tuer. Ses frères, selon la chair, eux qui lui tenaient de plus près, ne croyaient pas en lui. L'un de ses disciples allait le livrer, Jean 6, verset 71.
Or il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui allait le livrer. Lui qui était l'un des douze.
Le monde lui était hostile et son propre peuple ne le recevait pas. Comment pouvait-il alors apparaître en gloire et répandre sur le peuple des bénédictions terrestres? Certes, ses frères reconnaissent qu'il a la capacité d'accomplir ses promesses. Ils ne doutent pas de sa puissance et ils désirent qu'il la manifeste publiquement, afin que le monde l'honore et qu'ils en aient leur part. Mais cela n'est pas la foi. Et dans la réponse du Seigneur, nous voyons clairement la situation. Ils étaient du monde, et c'est pour cela que le monde ne les haïssait pas. Jean 7, verset 7.
Le monde ne peut pas vous haïr, mais il me hait parce que moi je rends témoignage de lui, que ses œuvres sont mauvaises.
Leur temps était toujours prêt, car il faisait partie de ce monde, une portion de ce système communautaire sur la terre qui ne le recevait pas, mais au contraire le haïssait et voulait le tuer. Aussi ne pouvait-il pas monter publiquement à Jérusalem. Il pouvait bien le faire ensuite, à la fête de la Pâque, car il était prêt, comme le vrai agneau de Pâques, à accomplir ce type, Matthieu chapitre 21. Mais comment le Fils de l'homme, que le monde avait rejeté, pourrait-il entrer dans sa gloire terrestre? Un jour, lorsque, par les jugements, le mal aura été ôté, et que le résidu se sera tourné vers Dieu, il fera, en vertu de la Pâque, une entrée triomphale à Jérusalem, et établira sa domination, Zacharie chapitre 14, et Matthieu 23, verset 39.
Je vous dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ».
Mais maintenant, il n'avait que la mission d'aller son chemin, comme rejeté, et de rendre témoignage de Dieu à ceux qui le rejetaient. Et lorsque les pharisiens et les sacrificateurs envoient des huissiers pour se saisir de lui, il dit qu'ils n'ont pas besoin de se hâter, car le moment de son départ de cette terre approchait. Il n'avait aucune communion avec le monde, il ne la cherchait pas, et il ne désirait aucun honneur de la part du monde. Il ne recherchait que la gloire de celui qui l'avait envoyé. Et il crie à ceux qui ont soif dans ce monde qu'ils en sortent et viennent à lui pour boire, afin que leur soif soit apaisée et que des fleuves d'eau vive coulent de leur ventre.
Or, il disait cela de l'esprit qu'allaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié, Jean 7, verset 39.
Si nous lisons attentivement ces versets 37 à 39, nous y trouvons des choses importantes.
Jean 7, verset 37 à 39, « Et en la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus se tint là et cria, disant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. » Or, il disait cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.
Le Seigneur Jésus prononce ces paroles en la dernière journée, la grande journée de la fête. L'Ancien Testament nous enseigne que seule la fête des tabernacles durait 8 jours, et que le 8e jour avait une place spéciale. En Deutéronome 16, le 8e jour n'est pas du tout mentionné. En Lévitique chapitre 23 et Nombre chapitre 29, il est séparé des 7 premiers jours. Le chiffre 8 signifie toujours quelque chose de nouveau, qui est bien lié à ce qui était avant, et représente cependant un nouveau commencement. Ainsi, le 8e jour de la fête des tabernacles est une image de la gloire éternelle qui sera la part de tous les bienheureux après les 1000 ans de gloire terrestre. En ce jour, le Seigneur parle du Saint-Esprit qu'il donnera après avoir été glorifié comme Fils de l'homme. Il ne pouvait pas prendre possession de la gloire terrestre, car il était le rejeté qui allait être mis à mort, Jean 7. Versets 7, 19 et 33.
Le monde ne peut pas vous haïr, mais il me hait, parce que moi je rends témoignage de lui que ses œuvres sont mauvaises. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, et nul d'entre vous n'observe la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Jésus donc dit, je suis encore pour un peu de temps avec vous, et je m'en vais à celui qui m'a envoyé.
Mais Dieu le ressusciterait d'entre les morts et lui donnerait une place à sa droite, dans la gloire céleste éternelle, et de là il enverrait le Saint-Esprit à tous ceux qui croient en lui. En Jean 4, il était le Fils de Dieu qui donne l'eau vive en puissance divine. Au chapitre 7, c'est le Fils de l'homme, rejeté par le monde, mort mais ressuscité par Dieu, et glorifié dans le ciel en raison de son œuvre, qui, de là, envoie le Saint-Esprit pour lier les croyants à lui. Ils reçoivent ainsi sur la terre la même position qu'ils occupaient. Et comme Jean 4 expose que le Saint-Esprit lie le croyant au Fils et au Père, ce qui lui confère la position d'adorateur, De même ici, nous trouvons que des fleuves d'eau vive couleront du ventre de celui qui reçoit le Saint-Esprit. Il s'agit ici du service pour Dieu dans ce monde. L'habitation du Saint-Esprit dans le croyant détermine donc sa position sur la terre. Par lui, nous sommes unis à un Seigneur rejeté par le monde qui l'a même cloué à la croix. Cependant, Dieu a accepté son œuvre, en vertu de laquelle aussi il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a reçu dans la gloire.
Nous voyons Jésus, à cause de la passion de la mort, couronné de gloire et d'honneur. Hébreux 2, verset 9.
La puissance du Saint-Esprit remplit le cœur de la gloire dans laquelle Jésus est entré. Mais notre position sur la terre est la même que celle qu'avait Christ ici-bas. Nous trouvons dans l'histoire de ce monde que, ou bien Dieu fait valoir ses droits sur la terre, comme le Dieu de la terre, ou bien il se retire en quelque sorte dans le ciel, comme le Dieu des cieux. La conduite du croyant doit se conformer à cela. En Genèse chapitre 1 et 2, nous voyons comment Dieu sauvegarde ses droits sur la création encore dans sa pureté. Mais après la chute, Dieu ne s'occupe qu'indirectement de la terre jusqu'à ce que le péché et l'injustice des hommes aient atteint leur point culminant. Alors, il exerce le jugement par le déluge et s'occupe de la terre purifiée d'une manière directe, Genèse chapitre 8 et 9, confiant à Noé la nouvelle terre, faisant une alliance avec lui et lui remettant le gouvernement. Genèse 9, verset 6.
Qui aura versé le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car à l'image de Dieu il a fait l'homme.
Malheureusement, Noé aussi et ses descendants s'élèvent contre Dieu et abusent de leur puissance. Et après la construction de la tour de Babel, Dieu appelle Abraham, non pour posséder la terre, mais pour vivre sur elle comme un étranger dans l'attente de la cité dont Dieu est l'architecte et le créateur. Hébreux 11, versets 9 et 10.
Par la foi, il demeura dans la terre de la promesse, comme dans une terre étrangère, demeurant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a les fondements, de laquelle Dieu est l'architecte et le créateur.
Lorsque, ensuite, l'iniquité des habitants de la Palestine eut atteint son comble, Dieu appelle de nouveau un peuple qui doit posséder la terre, et il se met lui-même à la tête de son armée. Josué 5, verset 14.
Et il dit « Non, car c'est comme chef de l'armée de l'Éternel que je suis venu maintenant. » Et Josué tomba sur sa face contre terre et lui rendit hommage, et lui dit « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?»
Alors Dieu est appelé le Seigneur de toute la terre, Josué 3, verset 11, et en 1 Chronique 29, il est dit que le trône de l'Éternel est à Jérusalem.
Josué 3, verset 11, « Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. »
Mais le peuple d'Israël aussi se détourna de Dieu, de sorte qu'il dut le juger. Il l'envoie en captivité. La gloire de l'Éternel quitte Jérusalem, Ézéchiel 10 et 11. Il donne le gouvernement de la terre à des rois païens, et ne se nomme plus lui-même le Seigneur de toute la terre, mais le Dieu des cieux, Daniel 2, verset 37.
Toi, ô roi, tu es le roi des rois, auquel le Dieu des cieux a donné le royaume, la puissance et la force et la gloire.
Après la captivité, nous ne trouvons qu'un rétablissement partiel. Le peuple n'a plus été indépendant. Et lorsque le Seigneur Jésus vient sur la terre, leur méchanceté et leur corruption totale se montrent. Il crucifie l'héritier, lui qui avait tous les droits sur la terre et à qui il appartenait de prendre possession de l'héritage. Matthieu 21, versets 33 à 46.
Écoutez une autre parabole. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne et l'environna d'une clôture, et y creusa un pressoir, et y bâtit une tour, et il la loua à des cultivateurs et s'en alla hors du pays. Et lorsque la saison des fruits approcha, il envoya ses esclaves aux cultivateurs pour recevoir ses fruits. Et les cultivateurs, ayant pris ses esclaves, bâtirent l'un, tuèrent l'autre et en lapidèrent un autre. Il envoya encore d'autres esclaves en plus grand nombre que les premiers, et ils leur firent de même. Et enfin, il envoya auprès d'eux son fils, disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais les cultivateurs, voyant le fils, dirent entre eux, « Celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le, et possédons son héritage. » Et l'ayant pris, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Quand donc le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces cultivateurs-là? Ils lui disent, il fera périr misérablement ces méchants, et louera sa vigne à d'autres cultivateurs qui lui remettront les fruits en leur saison. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse pierre du coin, celle-ci est de par le Seigneur, et est merveilleuse devant nos yeux. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et sera donné à une nation qui en rapportera les fruits. Et celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, mais celui sur qui elle tombera, elle le broiera. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens, ayant entendu ces paraboles, connurent qu'il parlait d'eux, et cherchant à se saisir de lui, ils craignaient les foules, parce qu'elle le tenait pour un prophète.
L'Évangile, selon Jean, considère tout sous ce point de vue. Dès le début, le Seigneur est présenté comme rejeté, Jean 1, versets 5 à 11.
Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Celui-ci vint pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous crussent par lui. Lui n'était pas la lumière, mais pour rendre témoignage de la lumière. La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez soi, et les siens ne l'ont pas reçu.
Certes, il entrera une fois dans sa gloire terrestre, lorsque le jugement aura été exécuté sur le monde et que la vraie fête des tabernacles aura été célébrée. Mais maintenant, Dieu n'a aucun contact direct avec la terre, et le Seigneur Jésus est étranger ici-bas, rejeté du monde, lui qui ne fait rien d'autre que de chercher à honorer Dieu en annonçant sa parole, Jean 7, versets 14 à 18.
Mais comme on était déjà au milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs donc s'étonnaient, disant, « Comment celui-ci connaît-il les lettres, vu qu'il ne les a point apprises ?» Jésus donc leur répondit et dit, « Ma doctrine n'est pas mienne, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine si elle est de Dieu, ou si moi je parle de par moi-même. » Celui qui parle de par lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui.
Ne voyait-il pas que les Romains opprimaient le peuple terrestre de Dieu? Ne voyait-il pas l'injustice et la cruauté d'un Hérode et d'un Pilate? Ne voyait-il pas les manquements d'Israël? Lui qui connaît tout, Jean 4, verset 18, qui sait ce qui est dans le cœur des hommes, Jean 2, verset 25, ne devait-il pas sonder ce qui était contraire aux pensées de Dieu?
Jean 4, verset 18, « Tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Jean 2, verset 25, « Il n'avait pas besoin que quelqu'un rendît témoignage au sujet de l'homme, car lui-même connaissait ce qui était dans l'homme. »
Lui qui frémit et pleura, Jean 11, versets 33 à 38, à la vue de la puissance et des conséquences du péché, n'a-t-il pas dû être troublé et affligé de tout ce qui déshonorait le nom de Dieu sur la terre?
Jean 11, versets 33 à 38. Jésus donc, quand il la vit pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle pleurer, frémit en son esprit et se troubla et dit, « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui disent, « Seigneur, viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs donc dirent, « Voyez comme il l'affectionnait ?» Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Celui-ci, qui a ouvert les yeux de l'aveugle, n'aurait-il pas pu faire aussi que cet homme ne mourût pas ?» Jésus donc, frémissant encore en lui-même, vient au sépulcre, or c'était une grotte, et il y avait une pierre dessus.
Le voyons-nous, dans sa marche, s'occuper de cela? Il ne combat pas pour chasser l'oppresseur romain, mais dit au contraire,
« Rendez les choses de César à César. »
Il n'essaie pas d'éloigner la sacrificature corrompue et sans Dieu en faveur d'hommes craignant Dieu. Il ne tente pas d'écarter tout le mal existant. Et quand quelqu'un lui dit
« Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. »
Il répond, bien que cet homme ait sûrement eu le droit de son côté,
« Qui est-ce qui m'a établi sur vous pour être votre juge et pour faire vos partages ?» Luc 12, verset 14.
Le Seigneur prend la place d'un rejeté qui n'a ici-bas d'autre tâche que d'être un témoin pour Dieu et d'inviter hors du monde tous ceux qui ont soif à venir à lui. Il ne cherche pas sa propre gloire, Jean 7, verset 18.
Celui qui parle de par lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui.
Lorsqu'on veut le faire roi, il s'en va. Quand il fait des miracles, il défend qu'on en parle. Il n'a qu'un désir, accomplir la volonté de Dieu, et cela signifie la croix. Ce Jésus est maintenant au ciel. Tout le système communautaire sur la terre l'a conduit à la croix et l'a crucifié. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite, jusqu'à ce que, dit-il, je mette tes ennemis pour marchepied de tes pieds. Du ciel, il envoie ici-bas le Saint-Esprit. Quiconque a soif peut venir, chacun individuellement. Et quiconque croit en lui reçoit le Saint-Esprit qui devient en lui des fleuves d'eau vive coulant de lui, et qui le lie avec le Seigneur glorifié, et qui l'élève aussi au-dessus du désert au travers duquel il chemine.
Passant par la vallée de Baca, des pleurs, ils en font une fontaine, psaume 84, verset 6.
Le croyant est ainsi rendu propre au service ici-bas. Il peut être un rafraîchissement à celui qui a soif, car de lui coulent des fleuves d'eau. Telle est la place du croyant de nos jours, dans la période de la grâce. Prenons-nous en fait cette place? Voit-on dans notre vie que, par l'habitation du Saint-Esprit en nous, nous sommes un avec le Fils de l'homme glorifié dans le ciel, mais rejeté du monde? Notre vie n'a-t-elle d'autre but que de faire la volonté de Dieu? La plupart d'entre nous doivent avoir un métier pour subvenir à leur propre entretien et à celui de leur famille, et cela est bien, car beaucoup de croyants ne peuvent pas se passer de la discipline du travail quotidien. Mais voulons-nous par ce moyen simplement pourvoir à notre subsistance, ou visons-nous à acquérir ainsi une place honorable dans la société? Est-ce que nos relations et notre conduite tendent à honorer Dieu, ou servent-elles à notre propre gloire? Le temps n'est pas encore revenu pour nous de recevoir des honneurs. Un jour, nous serons assis sur des trônes, et nous jugerons et le monde et les anges. 1 Corinthiens 6, versets 2 à 4.
Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, et si le monde est jugé par vous, êtes-vous indigne des plus petits jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, et nous ne jugerions pas les affaires de cette vie? Si donc vous avez des procès pour les affaires de cette vie, établissez ceux-là pour juges qui sont peu estimés dans l'assemblée.
Mais actuellement, l'honneur qui vient du monde est en réalité une honte pour un croyant. Nous ne sommes sur la terre que pour faire la volonté de Dieu et être des témoins d'un Christ rejeté, mais qui est glorifié dans le ciel. Oublier cela est nuisible pour le croyant et anéantit son témoignage.